ses invités. Posez toutes vos questions au 01 42 32 15 15.
Bonjour, et si nous étions tous reliés les uns entre les autres, des communications dont nous n'aurions pas conscience, bien évidemment, s'il y avait une sorte de psychisme universel qui fasse telle la termitière, qui relie tous les individus entre eux sans qu'apparemment ceux-ci aient la perception de l'ensemble, eh bien peut-être que nous, les êtres humains, nous serions dans cet état. Ça paraît invraisemblable et pourtant, aujourd'hui, des scientifiques très sérieux ont essayé de placer des ordinateurs afin de jauger les psychismes qui se relieraient entre eux et de voir si nos états émotionnels, entre autres, pourraient s'additionner et pouvoir éventuellement percevoir les événements qui régissent les êtres humains. Deux invités avec nous pour évoquer ce vaste sujet, ô combien passionnant, Grégory Gutiérrez, une faute, ça commence bien. Il est à l'Institut Métapsychique. Alors, on peut peut-être rappeler deux secondes ce qu'est l'Institut Métapsychique.
Oui. C'est un institut reconnu d'utilité publique qui a été fondé en 1919.
Moi aussi, je suis d'utilité publique.
Oui. fondé en 1919 donc par des savants et des intellectuels français, dont le prix Nobel 1913 Charles Richer, l'astronome Camille Flammarion et quelques autres, et qui s'intéressent à ce qu'on appelait à l'époque la métapsychique, qu'on appelle aujourd'hui la parapsychologie.
Voilà, du beau monde, du beau linge, dirait-on aussi, avec aujourd'hui un garçon qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, Mario Varvoglis, qui est le président.
Oui, qui est depuis quelques années le président, qui avant avait travaillé aux États-Unis au Maimonides Hospital.
C'est bien dit.
Merci. Sur des expériences de Ganzfeld notamment.
Alors expliquez Ganzfeld parce que
Le terme Ganzfeld lui-même, c'est un terme de la psychologie allemande qui veut dire champ unifié. Quand on met une personne en état de Ganzfeld, ça veut dire qu'on l'allonge sur un fauteuil ou sur un lit, par exemple, et on essaie de la priver de tous ses sens normaux. C'est-à-dire qu'on lui met
un état modifié de conscience, tout simplement.
C'est une sorte d'état d'hypnose très technicisé, quoi.
Et qui nous permet d'entrer dans les profondeurs de la psyché et de découvrir peut-être des mondes que nous ignorons à notre état de veille, mais qui néanmoins participent à notre existence.
Voilà, ça permet d'investiguer des états de conscience qui ne sont pas l'état de conscience de veille normal.
Très bien. Autre interlocuteur, Maxence Layet. Il est journaliste indépendant et vous êtes spécialisé dans les nouvelles technologies. Alors vous intéressez, c'est très vaste, à tout ce qui fera le monde de demain et en particulier ce qui a souvent été négligé dans l'approche technologique depuis deux siècles, à savoir réintroduire la psychologie dans ce qui concerne les êtres humains.
Oui, effectivement, ça fait partie des aspects que j'essaye d'explorer, ou en tout cas de couvrir avec des articles. Et en l'occurrence, c'est ce qui m'a fait m'intéresser au projet Conscience Globale, parce que on est en situation on en parlera plus tout à l'heure encore, quoi, mais on est en situation d'un réseau d'ordinateurs qui témoigne, manifeste, enregistre, crépite avec pas mal d'anomalies statistiques qu'ils affichent comme ça à l'écran. Et même si pour l'instant on n'a absolument aucune idée quant à la nature de l'énergie qui pourrait interagir entre l'un et l'autre domaine, en tout cas il y a des hypothèses, il y a des postulats qui découleraient de ces significations statistiques.
Alors vous avez presque défloré le sujet, c'est parfait, on va aller plus loin, mettre tout de suite en place le réseau qui existe au niveau mondial. On reviendra à la jeunesse de l'histoire dans quelques instants, mais vous dites, il y a des ordinateurs. 75, si j'ai bien lu Psychologie Magazine, un papier d'Éric Pigani, c'est ça ?
Il y a une cinquantaine d'ordinateurs à travers le monde, et il y a 75 chercheurs qui sont impliqués activement dans ce réseau informatique.
Alors, ces ordinateurs sont placés de telle sorte qu'ils essaient de capter nos états émotionnels, les états émotionnels d'une population en un lieu donné, c'est cela ?
C'est effectivement l'hypothèse a priori qui sous-tend la mise en place de ces ordinateurs. Mais en fait, c'est vraiment un peu l'histoire du projet, c'est vraiment un peu une histoire de poupée russe, où en fait, les ordinateurs, c'est cette cinquantaine d'ordinateurs qui sont en réseau les uns avec les autres, sont simplement disposés à pas mal d'endroits, bon, en l'occurrence plutôt des pays comme la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, les États-Unis.
Il y en a maintenant aux îles Fidji et en Thaïlande aussi.
Il y en a deux en France.
Ça commence à vraiment essaimer un peu partout dans le monde.
Mais ils ont des capteurs, comment ça fonctionne ?
Ils fabriquent des séries numériques, ils fabriquent des chiffres au hasard. Et donc, comme ces chiffres sont générés de façon complètement aléatoire, ils sont censés répondre à des courbes statistiques ou des principes statistiques qui sont ceux qu'on appelle la courbe du hasard.
D'accord. Donc théoriquement, on ne peut pas repérer la moindre reproduction séquentielle, c'est cela ?
Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect qu'en tant que générateur numérique aléatoire, ils sont censés être protégés, blindés de toute influence extérieure.
D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est là que l'on peut revenir à la jeunesse de l'histoire. C'est un ingénieur américain qui travaillait chez Boeing, M. Schmidt, qui, dans les années 60, avait créé ce premier appareil aléatoire avec des ampoules. Et un jour, il s'est dit, et si la pensée pouvait influencer ce champ aléatoire ? C'est
ça ? Oui, c'est ça, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce type de machine, celle-là, c'était la première, à base d'ampoules. Puis avec les années 70 et tout ce qui est micro-informatique, ça s'est miniaturisé. Ce sont des dispositifs qui ont commencé à être exploités dans des perspectives d'études, de recherches parapsies.
C'est-à-dire que, en l'occurrence, on part d'ampoules, hein, imaginons, c'est Las Vegas, c'est ça,
ouais.
C'est facile, ça clignote dans tous les sens, et lui, il est parti de l'hypothèse qu'éventuellement, en faisant un effort de concentration, eh bien, ce jaillissement de lumière pourrait être influencé à la demande.
Tout à fait, oui.
Et alors, les résultats ont été probants.
Ben, en l'occurrence, effectivement, c'est ce qu'on appelle la micropsychokinèse, il y aurait un effet à tester avec donc moult études qui ont repris le même type de protocole, de dispositifs et qui les ont améliorés avec le temps, bien sûr, quoi, pour les affiner. Mais il y aurait une influence de l'esprit
sur la matière,
mais une matière donc qui est au niveau du processus électronique, puisque là typiquement le type de question qu'on pourrait poser à une personne qui va s'asseoir devant le tableau de commande, c'est par rapport à des chiffres qui vont s'afficher à l'écran, est-ce que vous voulez plutôt des chiffres pairs ou des chiffres impairs ? Donc normalement, il y a une chance sur deux. Au total, des millions ou des milliers de chiffres qui vont être produits pendant une heure. Et au sortir de cette heure, si la personne s'est bien concentrée, si la personne est un sujet psy ou qu'importe,
un sujet psy, c'est-à-dire quelqu'un qui est
manifestant des capacités, oui.
D'accord.
À influencer.
Ce que l'on appelle éventuellement un voyant, un médium.
C'est ça, oui.
D'accord.
Exactement. Donc, on va avoir plus de chiffres du côté pair, ou plus de chiffres du côté impair, et bien sûr, ça tendrait du côté où la personne a voulu que ça tende.
Alors, de la même manière, on aurait démontré de cette façon, ou du moins dressé une hypothèse sérieuse, que l'on serait capable de précognition, donc de prévoir ce qui va se passer, en étant dans un état neutre, de dire, ça va plutôt être une ampoule pair ou une ampoule impair qui va s'allumer. C'est ça, Antoine ?
Oui, c'est à peu près ça. Plusieurs théories qui ont été émises par les parapsychologues depuis qui font ces expériences. Mais au départ, avant ces générateurs aléatoires qui sont des petites merveilles d'électronique que la technologie actuelle a permis de créer, Rhine aux États-Unis dans les années entre les années 30 et 50 par exemple, il avait essayé de systématiser ce genre de recherche sur la psychokinèse avec par exemple des dés qui étaient mis dans des cages qui tournaient aléatoirement, qui s'ouvraient d'un seul coup et les dés tombaient par terre. Et un sujet psy était censé influencer la chute des dés pour avoir plus de 6 que de 1 par exemple.
Je crois que Rémi Chauvin a retenté les expériences en France et Yves Lignon également à Toulouse.
Oui.
Hein, les deux, et apparemment ils ont corroboré les travaux de Rhine. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, mais oui, mais puisque l'homme est intervenant au départ, hein, de cette façon, il y a une incidence, même si on ne s'en rend pas compte, alors que avec une machine, il n'y a pas d'intervention. Là, c'est directement le cerveau de l'individu qui finit
quand
par
Rhine
toucher.
Quand Rhine mettait des dés dans les cages, c'était dans le but évident qu'il n'y ait pas d'interaction entre l'expérimentateur ou le sujet psy et la chute des dés elle-même, pour éviter tout biais statistique ou tout biais expérimental qui puisse fausser les résultats. Et les générateurs aléatoires actuels, c'est l'actualisation de ce genre de technique. Et on en est aujourd'hui à des petits boîtiers qui ressemblent à des boîtes d'allumettes qu'on branche à un ordinateur et qui produisent toutes les secondes des centaines de 0 et de 1, comme une pièce qu'on lancerait en l'air.
Alors, les premiers résultats sont probants, puisqu'ils laissent bien mettre en évidence que la pensée des individus placés devant la machine ou avant, mm-hmm. quand c'était de façon plus artisanale, ah ouais. Soit en résonance au moins.
Oui, ils ont ce que Rhine a montré, par exemple, avec ses études statistiques sur la question, qui ont été validées par un institut de mathématiques américain, qui a dit que les expériences de Rhine, il ne se prononçait pas sur l'interprétation des résultats, mais qu'au moins les calculs et l'analyse de Rhine étaient justes au niveau mathématique, donc on ne peut pas trop les remettre en cause. Ces expériences de Rhine, ce qu'elles suggèrent, c'est qu'il y a une corrélation entre la volonté de l'être humain, qui se trouve devant ses dés, par exemple, et le résultat des dés.
Alors, est-ce que ça permet, là aussi, d'étendre notre champ de réflexion à deux autres personnages, à savoir Teilhard de Chardin, qui a dit qu'il y avait une sorte de conscience globale, hein. Mm-hmm. Il appelait ça la noosphère, c'est bien
la
ça
noosphère. La noosphère.
Bon. Et puis, il y a Jung, l'inconscient collectif. Alors, l'inconscient collectif qui suggère que nous soyons tous reliés les uns entre les autres. Et là, des travaux de Rhine à partir de ces moyens électroniques d'aujourd'hui, il y a un autre chercheur qu'on peut faire jaillir dans la conversation, qui est Nelson, avec son fils. Ils se sont dit, plusieurs personnes devant un appareil, est-ce que leur psychisme a une action amplifié. Et oui. Apparemment, ça semble démontrer.
Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on a abordé, c'est les expériences qui pouvaient se situer en laboratoire, donc dans un environnement protégé avec une seule personne. À partir des années 1995 ou 1996, Nelson, en tant que chercheur, en tant que psychologue et chercheur dans le domaine de la parapsychologie, s'est dit, bon, si on sortait ce matériel-là, ce générateur aléatoire, si on le sortait du labo pour le mettre lors d'assemblée, pour le mettre à l'extérieur, lors d'assemblées de personnes qui impliquées dans diverses activités, qui peuvent être prier ensemble, qui peuvent être danser ensemble, qui peuvent être tout simplement être des supporters dans un stade de foot. Donc en mettant comme ça cet appareil hors du laboratoire, dans le réel, avec une foule, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qui s'est... Et donc là, en le mettant donc à une plus grande échelle, ils se sont effectivement aperçus que quand il y a donc résonance, quand les personnes en tout cas sont dans une activité implicante, dans une activité...
Ils sont focalisés sur la même idée.
Voilà, parce que focalisés sur la même idée, c'est un peu la notion d'effet de foule. Mmh. C'est-à-dire quand on partage un petit peu le même état émotionnel, le même moment...
Quand on se met en communion, n'ayons pas peur mes frères, à l'heure de la messe.
Oui. Les corrélations statistiques montrent des écarts significatifs par rapport à ce que le hasard seul devrait donner.
C'est-à-dire que pour être bien clair vis-à-vis de ceux qui nous écoutent, en l'occurrence, on a une sorte de psyché globale qui s'est créée.
C'est en tout cas l'interprétation.
C'est la théorie de Nelson qu'il essaie de vérifier. Que de la même manière qu'on a une atmosphère autour de la Terre et un champ magnétique, il y aurait une noosphère, c'est-à-dire le champ de la pensée de l'humanité.
D'accord, mais Antoine et Maxence, en l'occurrence, les premiers...
Grégory et Maxence.
Grégory, oui, pourquoi je dis Antoine? C'est parce que vous avez les cheveux longs, c'est pour ça. Alors,
j'ai pas de bateau pour aller aux îles Fidji.
les résultats montrent qu'il y aurait bien cela, puisque un groupe d'individus influence la machine.
Effectivement, c'est-à-dire que mis en présence avec un groupe d'individus à l'extérieur, ça a donc été des expériences qui ont été menées entre 96 et 98, donc en présence avec un groupe de personnes qui étaient en train de faire une célébration un petit peu New Age à côté des pyramides d'Égypte, au milieu d'un stade de foot anglais avec des supporters, voilà, qui étaient tous présents, qui suivaient le match tous ensemble dans le stade. Les données statistiques ont montré qu'il y avait en tout cas des déviations qui apparaissaient sans explication physique possible, à moins d'intégrer cette hypothèse-là.
Une question a jailli dans mon esprit, oui, en entendant le mot pyramide d'Égypte.
Oui.
Est-ce que, puisque l'on dit qu'il y a une sorte, là aussi, de champ très particulier lié à ces monuments, la déviation enregistrée sur la machine était-elle plus importante que dans un match de foot? Donc, pourrait-on traduire cela par des lieux? Là encore, étendons, pourquoi pas une cathédrale, serait-il plus favorable à créer une sorte de champ psychique global?
Ben là, on rentre directement dans une certaine catégorie d'hypothèses, ou en tout cas de facteurs de contexte, qui n'ont pas, aujourd'hui, par manque de temps, par manque de moyens, n'ont pas été analysés statistiquement et mis en corrélation. Ce qui est mis en corrélation, c'est la présence d'un événement impliquant un groupe de personnes avec un capteur passif, en l'occurrence l'ordinateur qui génère des chiffres, et ces chiffres, ils se produisent pas, ils sont pas fabriqués comme le hasard devrait les fabriquer.
C'est-à-dire que les générateurs semblent ne plus fonctionner normalement au moment où un grand nombre de personnes sont focalisées sur le même événement.
Mais on n'a pas encore différencier voilà. entre la pyramide et le stade de football.
Cette perspective-là n'a pas été, ça n'a pas été du tout étudié pour l'instant, ni corrélé, ni rien. Mais simplement par manque de moyens. C'est-à-dire que ça fait partie des motifs possibles, ou en tout cas des influences possibles que Nelson sur son site web liste comme grosso modo appel à bénévoles pour mener des enquêtes, enfin des études parallèles ou des travaux de confirmation parallèles sur ces aspects-là. Mais pour l'instant, ça n'a absolument pas été abordé et ça n'est pas évoqué non plus dans les rapports, dans les publications
d'accord,
scientifiques.
D'accord, parce que n'oublions pas, les Romains en particulier, les lieux de culte païens qui étaient les leurs, ils ne les édifiaient pas n'importe où. Ils recherchaient des nœuds d'énergie.
Tout à fait, oui.
Alors, il faudrait savoir si ces nœuds d'énergie viennent dynamiser une sorte de pensée globale.
Là-dessus, moi, j'aimerais bien poser une question à Grégory, c'est comment est blindé ou protégé le EGG qui se trouve à Paris, à l'Institut
Métaphysique. Alors attendez, vous venez de dire EGG, je vous coupe, parce que pour ceux qui nous écoutent, on n'avait pas encore dit EGG.
C'est vrai.
Alors EGG, ça veut dire œuf, et c'est le...
C'est un jeu de mots aussi. Parce que EGG, E-G-G, c'est le nom qu'a trouvé Dean Radin, un collègue de Nelson, pour parler de ces petites machines. En faisant un parallèle avec les électroencéphalogrammes ou électroencéphalographes, les deux termes existent, pour mesurer
l'activité mentale
dans un crâne humain. L'EGG, EGG, c'est l'électrogaïagraphe, c'est-à-dire c'est l'électroencéphalogramme de la Terre, quoi. Alors évidemment, la Terre n'est pas un gigantesque cerveau, mais l'analogie est parlante, quoi. Donc on a choisi ce terme de EGG.
Alors pour reprendre les propos de Maxence qu'il vous adressait, mon cher Grégory, pour éviter toute coquille, est-ce que l'EGG est protégé de telle sorte?
Oui, alors les EGG actuels, il y a trois ou quatre grosses sociétés qui fabriquent des générateurs aléatoires et non pas des EGG. L'EGG, c'est l'alliance d'un ordinateur qui envoie des données sur Internet et d'un générateur aléatoire qui est branché et qui génère ces données.
Oui, dans le cadre du projet Nelson, c'est vraiment le nom qui est donné à chaque unité qui fabrique des chiffres et qui les envoie au serveur central.
Voilà. Mais l'EGG est fondé sur un générateur aléatoire, on appelle ça en anglais un GNA,
C'est pas grave.
Ah, pardon.
Ah non, reste au français.
Il y a plusieurs noms. Random Event Generator, par exemple. Et ces petites machines-là, donc c'est l'espèce de petite boîte d'allumettes dont je vous parlais tout à l'heure, elle n'est pas utilisée qu'en parapsychologie. C'est pas un truc propre aux parapsychologues qui, dans leur coin de petite folie, auraient inventé un truc bizarre pour accréditer leur croyance d'origine. C'est aussi utilisé dans la science plus normale, parce que beaucoup de scientifiques ont besoin de séries de chiffres aléatoires pour travailler. C'est utilisé en informatique et chez les militaires pour des questions d'encodage et de encryption en anglais de données. Et c'est utilisé aussi dans les casinos à Las Vegas ou ailleurs où on a besoin de séries aléatoires et sur le net dans les casinos online, etc.
Et c'est utilisé aussi par les physiciens et les astronomes qui essayent de capter des rayonnements extrêmement ténus et quasi impossibles à mesurer.
Pour répondre donc à la question de Maxence au début, ces petits générateurs aléatoires évidemment sont blindés parce qu'ils sont faits effectivement pour ne pas être influencés par des champs magnétiques qui seraient à côté. Si vous mettez un portable
d'accord, mais
à côté,
un champ magnétique c'est une chose, la psyché humaine, c'est autre chose.
Mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant.
C'est pour ça que c'est intéressant.
Voilà, puisque dans les expériences qu'on peut tenter ici et là pour essayer de montrer que nous pouvions peut-être être en connexion, on met des gens dans des pièces de béton et avec une impossibilité théorique d'être dans une captation.
Oui, c'est ça. On essaye d'isoler d'un maximum d'éléments extérieurs.
Oui.
Et puis, justement, si quelque chose se déroule ou se déclenche, ou en tout cas apparaît dans le traitement et l'analyse des données, et on se rend compte que, il y a quand même quelque chose qui apparaîtrait. Bon, comme tel facteur d'influence ont été isolés ou ont été, il est impossible que ces facteurs-là puissent intervenir dans le cours de l'expérience. Bon, en tout cas, ça peut pas être ces raisons-là. C'est
d'accord.
Que c'en est d'autres.
Donc, pour le moment, on peut conclure que la télépathie serait plus infiltrante qu'un champ magnétique habituel.
Oui.
Très bien. Alors, on va faire une pause là-dessus, messeigneurs, Grégory Gutériez et puis Maxence Layet. On se retrouve dans un instant pour parler des événements qui ont été vécus fortement sur la planète et quels sont les résultats qui sont apparus sur ces appareils aléatoires.